Mission Vision avec Alain Renaud.
Eh bien, bienvenue à ce 21e épisode de Mission Vision. 21e épisode et aussi avant-dernière de Mission Vision dans sa formule actuelle. Je vous en reparlerai. Toujours sur les ondes de Canal M et en partenariat avec le RAM, le regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain. Aujourd'hui, j'ai trois invités. En première demi-heure, je reçois Antoine Perrault du regroupement des aveugles et amblyopes du Québec. Et en deuxième bloc, je reçois Pascal Dussault, la directrice générale du RAM, le regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain. Ensuite, Enora Rivière, audiodescriptrice au spectacle de Densité, sera avec nous pour une petite demi-heure. Eh bien, bonne émission. Aujourd'hui, nous allons aborder l'audiodescription sous deux angles. Dans un premier temps, l'audiodescription, surtout dans le domaine de la télécommunications, c'est-à-dire cinéma-télévision. Et en deuxième partie de cette émission, je recevrai Enora Rivière, qui est audiodescriptrice, donc plutôt dans le domaine des arts de la scène. Et entre eux deux, donc, je le disais, je vais recevoir Pascal Dussault du RAM. Alors, je suis avec Antoine Perrault. Bonjour, Antoine.
Bonjour.
Alors que ben, je te présente comme directeur général du RAC.
Oui, tout à fait.
Tout à fait. Et puis, voilà, on a deux... j'ai parlé d'audiodescription, mais on a notre petit dossier sur lequel on pourra glisser un mot par la suite. Donc, vous avez présenté un avis sur l'audiodescription. Qui a été présenté, si je ne me trompe pas, au... comment s'appelle l'organisme, finalement, qui faisait...
Le groupe de travail sur l'avenir de l'audiovisuel au Québec. Oui, on a déposé un avis récemment. Il faudrait que ça fait un bon bout de temps qu'on travaille sur l'audiodescription, la vidéodescription. C'est quelque chose qui est important pour nous. On essaie de la mettre de l'avant à tous les niveaux. Et récemment, le gouvernement du Québec a mis en place un groupe de travail sur l'avenir de l'audiovisuel au Québec parce qu'on sait que c'est un domaine qui a de la difficulté. La compétition avec les grands diffuseurs en ligne comme Netflix ou Prime Video impacte beaucoup le secteur de l'audiovisuel au Québec. Et on a trouvé que c'était une belle plateforme pour mettre de l'avant l'idée de dire que faut arrêter de considérer l'audiodescription comme une dépense supplémentaire, comme un boulet, plutôt de le considérer comme une plus-value à ajouter à une production. Une production qui a déjà une audiodescription de préparée, de disponible, ben c'est sûr que ça fait rayonner la culture québécoise, ça fait rayonner l'accessibilité, ça amène une plus-value quand vient le moment de vendre cette production-là. Donc on pense sincèrement que c'est un bel ajout à faire à une production l'audiodescription.
OK. Et puis ben si on compare, par exemple, à ce qui se fait au niveau des sous-titres pour les personnes sourdes, est-ce que justement... est-ce qu'il y a comme un déséquilibre entre le fait qu'on veut les télédiffuseurs veulent mettre moins d'énergie peut-être dans l'audiodescription?
Ben, je n'irais pas jusqu'à dire qu'ils mettent moins d'énergie. J'aime pas tant comparer les différentes les différentes mises en accessibilité dans le sens où de l'audiodescription ou la production de sous-titres codés, c'est deux choses complètement différentes. C'est deux processus de production complètement différents. Actuellement, c'est possible de dire que la très, très, très large majorité des contenus inclut des sous-titres codés. J'espère sincèrement que l'avenir, la prochaine adaptation qui va être largement disponible, ça va être l'audiodescription.
OK. Et puis, peut-être, je sais pas, j'ai quand même... un auditoire qui connaît peut-être bien l'audiodescription, mais il y en a peut-être des gens qui nous écoutent puis qui ne connaissent pas l'audiodescription. Je ne sais pas si tu pourrais juste nous présenter un peu à quoi consiste là, rapidement ce dont on parle.
Bien, c'est un sujet qui est très technique et très complexe, mais on va le résumer comme ça. L'audiodescription, qu'on va aussi appeler vidéodescription, là, c'est une piste audio qui va être ajoutée à la piste audio principale et où, durant les moments de silence, il va y avoir une voix qui va expliquer les informations qui ne sont transmises que visuellement et qui sont importantes pour comprendre l'histoire. Évidemment, là, moi, j'aime bien dire que l'audiodescription, c'est à la fois une technique et un art parce qu'il faut bien réussir à identifier qu'est-ce qui est important de mettre de l'avant sans empiéter sur la piste audio principale. Donc, c'est tout un art que de réussir à faire ça, mais ça permet à une personne, par exemple, qui a une déficience visuelle, ben, d'avoir accès à l'ensemble de l'information transmise par l'œuvre.
Mm-hmm. En fait, le côté artistique, on pourra justement, comme je disais tantôt, je vais en discuter avec Enora Rivière, qui, elle, fait l'audiodescription dans les spectacles de danse à Montréal depuis quelques années. Et est-ce que, ben, quand même, tu sais, je ne vais pas comparer nécessairement avec les sous-titres, mais est-ce que ça se peut que, quand même, techniquement, ça demande un petit peu plus d'énergie d'avoir à faire de l'audiodescription par rapport aux sous-titres, où je pense que ça peut être un peu plus technique et une intervention maintenant avec soit l'intelligence artificielle ou les technologies faisant en sorte que les sous-titres, avec toutes les fautes qu'on peut trouver à l'occasion, c'est peut-être aussi plus simple pour les télédiffuseurs à produire.
Ben, les sous-titres codés, comme je dis, je connais pas assez ça techniquement pour pouvoir le comparer.
Ouais, OK.
Mais quand on prend, par exemple, la plateforme YouTube qui a une option de produire des sous-titres automatiques qu'on peut enclencher, puis qu'il y a effectivement, là, de ce que je comprends, une IA qui va retranscrire les paroles telles qu'elles sont dites, telles que l'IA la comprend. Là, des fois, je sais que c'est pas tout le temps
parfait. Non, mais c'est parfait, ça.
Et puis, c'est sûr qu'il y a un aspect qui est très automatique. Qui doit faciliter en quelque sorte cette production-là. Moi, je pense que, puis c'est ce qu'on met de l'avant. On a parlé un peu dans l'avis qu'on a déposé au groupe de travail sur l'avenir de l'audiovisuel au Québec, mais on a aussi parlé au CRTC récemment. Mm-hmm. L'audiodescription, c'est quelque chose qui doit être mis partout. Le Canada vise à être un pays exempt d'obstacles. D'ici quelques années, le délai se rapproche.
Okay.
Et encore aujourd'hui, le CRTC, les instances fédérales, parlent de combien de pourcentages d'émissions doivent inclure de la vidéodescription.
Parle de pourcentage, tu veux dire dans... Excuse-moi.
Quel pourcentage de ce qui est diffusé sur la télévision, par exemple, sur les plateformes en ligne, doivent inclure de la vidéodescription, de l'audiodescription? C'est sûr que nous, le message qu'on envoie, c'est ben non, là, il est trop tard pour parler de quel pourcentage. Ça, c'est quand on commençait à parler de la mise en accessibilité de la télévision ou du cinéma. Là, maintenant, c'est surtout de dire dans combien de temps on peut s'assurer qu'il y a 100% des contenus qui incluent une audiodescription.
Okay.
Nous, on en est là. Le RAC, c'est ce qu'on met de l'avant. C'est pas normal en 2024 que ce ne soit pas, qu'il y ait un tout petit pourcentage des émissions de télé au Canada qui soit diffusé avec vidéodescription.
Okay.
Là, je parle du Canada,
ouais.
Mais si, parce que c'est le CRTC qui régit les télédiffuseurs partout au Canada et la réglementation est canadienne, elle n'est pas québécoise. Donc,
OK. Et puis, je pense qu'on glisse un petit mot sur ce qui se passe aux États-Unis. Je pense que comment ça se passe aux États-Unis? Est-ce que la réglementation est un petit peu plus, je dirais, sévère ou plus avancée que le CRTC?
Encore une fois, je suis pas un spécialiste de la réglementation américaine. Ce que j'ai pu lire dans les derniers mois, c'est que le pourcentage, le nombre d'heures de vidéodescription était moins élevé que ce qui était obligatoire au Canada.
Okay.
Ceci étant dit, au mieux de ma compréhension, la FCC, l'équivalent du CRTC aux États-Unis, eux, ce qu'ils travaillent à faire, c'est étendre les champs d'application de cette obligation-là.
Okay.
C'est-à-dire qu'eux, ils grossissent tranquillement les entreprises qui sont obligées d'offrir de la vidéodescription, par exemple.
OK. Tu as parlé des plateformes tantôt. On parlait de, ben, pas d'une menace, mais le fait que ces plateformes comme Netflix offrent maintenant beaucoup d'audiodescription, si je me trompe.
Ben, effectivement, on remarque, là, il faut faire des nuances là-dedans.
Ouais.
On remarque qu'il y a de plus en plus des produits, des productions maison, là, fait que les productions faites par Netflix, qui offre une vidéodescription de langue anglaise. En fait,
ouais.
On n'est pas, je suis pas en train de dire que la station est rêvée sur Internet.
Non, 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 non.
Mais ce qu'on constate, là, notamment chez Netflix, chez Prime Video, c'est qu'il y a beaucoup de productions maison qui arrivent sur la plateforme avec une audio, une piste avec audiodescription en langue originale, fait que généralement en langue anglaise.
Ouais. Ben, c'est quand même un bon exemple de la plus-value dont tu donnais tantôt à l'audiodescription. si eux le font, c'est qu'ils savent qu'il y a un public à aller chercher.
Ben assurément, puis encore une fois, c'est quelque chose, je ne veux pas prêter l'intention à ces grandes entreprises-là,
mais
je pense qu'ils ont quand même une capacité d'analyse qui nous montre qu'éventuellement, ils vont être obligés de le faire.
Okay.
J'ai l'impression que c'est vers là qu'on se dirige, plus de réglementation. Je pense que Netflix puis Prime Video, entre autres choses, c'est des compagnies qui voient arriver cette obligation-là puis qui le préparent peut-être.
OK. On parle, dans votre avis, on a quand même une expertise là, au Québec depuis un certain temps. On parle du CRIM, là, du Centre de recherche en informatique de Montréal, ce qui prouve qu'on a quand même ce qu'il faut enfin, je pense qu'on a les moyens au Québec, dans le fond.
Assurément, on a une expertise au Québec. Je pense que tout le monde connaît l'expertise québécoise en matière d'audiovisuel.
Mm-hmm.
Il y a plein de productions américaines qui viennent faire des films ici. On est très, très connus pour ça. Mais c'est important de savoir qu'on a aussi une expertise en audiodescription.
Mm-hmm.
Puis c'est intéressant de le mettre de l'avant, ça aussi.
Ouais, parce qu'en même temps, c'est ça, tantôt, pour revenir justement au fait que Netflix ou ces compagnies sont en train peut-être d'en produire un peu plus, même si c'est pas dans la même langue, c'est quand même aussi, ça fait partie un peu de comment ils sont en train de manger nos marchés, là. Pas seulement au Québec, au Canada, mais à l'extérieur. Et puis, ben c'est ça, il faut, si on veut contrer ça, si on veut affirmer notre culture, etc., c'est quand même... Donc, important de continuer à pousser les télédiffuseurs au fait d'en mettre, nous en donner encore plus, puis de faire que ce soit quelque chose de normal et non pas une obligation qui fasse en sorte qu'ils le fassent.
Assurément, c'est quelque chose qu'on met de l'avant aussi.
Mm-hmm. Et puis, quoi d'autre à dire sur votre avis? On parle aussi de qualité, parce que dans le fond, on s'entend qu'on veut pas seulement avoir des robots qui font l'audiodescription. On a besoin de qualité, puis ce qu'on disait justement à partir de l'expertise qu'on a développée, on est quand même aussi, c'est important de parler de la qualité.
Bien, c'est sûr que puis nous, on parle de la qualité beaucoup plus quand on parle des délais de production.
Okay.
Nous, ce qu'on veut, c'est une audiodescription qui n'est pas faite à la va-vite, on veut une bonne audiodescription.
Mm-hmm.
Après ça, là, on tombe sur un aspect technique, encore une fois, que je maîtrise moins, de ça prend combien de temps à produire une bonne audiodescription. Mais assurément, ce qu'on ne veut pas, c'est se retrouver avec une audiodescription de mauvaise qualité qui ne permettront pas aux personnes qui l'utilisent
mm-hmm.
de bien comprendre le contenu qu'ils ont devant eux. Puis c'est ça qui est important. Il y a un travail d'efficacité, il y a un travail de rationalisation à faire, c'est sûr, mais il y a aussi un niveau de qualité à réaliser. Puis c'est ça, dans le mémoire qu'on a déposé au CRTC, on l'a mis de l'avant beaucoup, l'importance. Je pense notamment à l'importance d'une rétroaction des gens qui utilisent la vidéodescription.
Ouais.
Il faut qu'il y ait des choses de mises en place pour savoir un peu ce que les gens ont pensé de cette audiodescription-là. Est-ce que ça répond à leurs besoins, par exemple?
OK. Je pense que... mon Dieu, qu'est-ce que j'allais dire? J'ai perdu le fil de mon idée. Écoute, on peut parler... Je pense qu'on a le temps juste pour glisser un petit mot là, à la rencontre que vous avez eue avec l'Association canadienne des télécoms au sujet là, des services sans fil. Je sais pas, tu peux me glisser un petit mot là, rapidement? Je pense qu'on a une minute, deux minutes.
Oui, assurément, mais je pense que ça vaut la peine d'en parler. Il y a encore trop peu de personnes qui le savent. La majorité des entreprises de téléphonie, notamment les téléphonies intelligentes, de cellulaires, intelligents et autres, offrent des forfaits adaptés aux personnes handicapées.
Okay.
Ces forfaits-là prennent, dépendamment des compagnies, puis j'aimerais ça pouvoir vous dire telle compagnie.
Oui, on n'a pas le temps.
Chaque compagnie a un forfait différent, mais ça vaut la peine d'aller faire des recherches. Si vous avez une compagnie de cellulaire avec qui vous travaillez, puis que vous n'avez pas accès au forfait personnes handicapées et que vous y avez droit, prenez le temps de les contacter. Il y a des compagnies qui choisissent d'offrir un rabais général. Par exemple, sous réception d'une preuve De la situation de handicap, okay. Ben, le forfait va avoir un 20$ de rabais, par exemple, okay. ou un 10$ de rabais. Il y a d'autres entreprises qui vont offrir plus de données pour permettre, par exemple, aux personnes handicapées visuelles qui utilisent des applications qui sont demandantes en données, là, je okay. pense à Be My Eyes, par exemple, quand okay. on est sur la okay. route, ben, d'avoir accès à plus de données pour moins cher.
Parfait.
Ça vaut vraiment la peine de faire des recherches.
On peut inviter nos auditeurs à aller visiter le site du RAC. Je pense que dans votre dernière infolette, là, il y a justement des liens avec les différentes entreprises pour aller voir un peu, chercher là, ses forfaits, puis ses rabais, puis ses services adaptés.
Tout ça est facile à trouver sur notre page Facebook.
Parfait. Merci Antoine Perrault, directeur général du regroupement des aveugles et amblyopes du Québec. À une prochaine.
Un gros merci, au revoir.
Bien, je suis maintenant en compagnie de Pascale Dussault, directrice générale du regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain, le RAM. On va parler de deux dossiers du moment au RAM, c'est-à-dire notre campagne, la campagne de financement du RAM 2024 et aussi une nouvelle formation offerte par le RAM. Et puis, j'y vais tout de suite. Bonjour, Pascale.
Bonjour, Alain. Ça va bien?
Oui, ça va bien, toi?
Oui, merci.
Ben merci d'accepter notre invitation. Donc, comme je disais au début, à cette avant-dernière de Mission Vision dans sa formule actuelle. Alors, les organismes communautaires, comme tous les organismes communautaires, le RAM a besoin d'un petit coup de main hein, du public. Et donc, c'est sa campagne annuelle de financement qui est en cours en ce moment.
Absolument. Elle est en cours jusqu'au 18 décembre prochain.
Oui.
Ça fait déjà plusieurs années qu'on a cette campagne-là de mi-novembre à mi-décembre.
OK.
Notre objectif cette année, c'est de récolter 25 000 $
Mm-hmm.
Et c'est pour soutenir l'organisme dans nos divers projets.
Mm-hmm.
D'ailleurs, le thème cette année, c'est aidons-nous, on a tout plein de projets.
C'est ça, plein de projets.
Tout plein de projets, oui.
C'est ça. Et puis, ben, je ne sais pas, est-ce qu'on pourrait parler justement de quelques-uns de soit ces projets passés et projets futurs dont le RAM met en action, met de l'avant?
Oui. Bien, on a surtout, on mise beaucoup sur des outils de sensibilisation,
mm-hmm.
Comme tu as eu Sandrine, je pense, la semaine dernière ou il y a deux semaines,
ouais.
qui est venue parler des terminaux de points de vente. Ben, on a fait des outils avec ça,
c'est
Sandrine
ça.
A travaillé des choses et
on parle de.
Pardon?
Ben, c'est ça, on parle de dépliants qu'on imprime, donc c'est des frais.
Ouais. Hein, ça, ouais, c'est ça. Des dépliants qu'on imprime, c'est des frais. Des petites vidéos qu'on fait,
exact.
C'est des frais. Des kiosques, des campagnes, etc., c'est toujours des frais.
Mm-hmm.
Alors, c'est vraiment pour soutenir la mission globale de l'organisme. C'est pas pour un projet en particulier,
mm-hmm.
mais comme tout le monde sait, on n'est pas les seuls au RAM. Tout le monde court après l'argent de nos jours, là.
Oui, ben oui.
Elle est de plus en plus difficile à avoir, d'ailleurs.
Mm-hmm.
Mais ces sous-là, peu importe que les gens nous donnent 10 $ ou 1000 $ pour nous autres, c'est aussi important l'un que l'autre.
Oui.
Et tous les dons par tranche de 50 $ ont le droit à un billet de tirage pour une carte cadeau Visa
oui.
de 300 $ qui nous est offert depuis maintenant 5 ans. On a le même partenaire qui est Atis.
OK.
C'est lui qui chaque année fait tirer cette carte-là, une carte cadeau de 300 $
OK. Qu'est-ce que c'est peut-être moi présenter comme... Oui, c'est quoi comme entreprise?
Ouais. Atis, c'est une compagnie... en informatique, mais qui se spécialise dans la création de bases de données.
OK. Donc,
et tu vois, ça, ça en est un projet qui nous a coûté énormément cher au RAM il y a quelques années, c'est de créer une base de données qui répondait à nos besoins,
okay.
mais qui était aussi accessible.
Oui, pour, pour toi, comme personne non-voyante, et certains de nos collègues employés qui sont aussi non-voyants.
Exactement. Fait que cette base de données-là, qui est notre outil de travail, hein, tu le sais.
Oui, oui.
C'est notre outil de travail au quotidien. c'est là-dedans qu'on tient tous nos registres des membres.
C'est ça, les membres.
Toutes nos statistiques d'activité qu'on fait, autant les activités de groupe qu'on offre, le nombre de présences, les activités quand on va à des réunions, des rencontres, des activités de sensibilisation. On a tout ça dans cette base de données-là.
Mm-hmm.
L'année dernière, on a fait ajouter un nouveau onglet, si on peut appeler ça comme ça, pour tout ce qui est la gestion de nos ventes de services, pour qu'on soit en mesure de gérer nous-mêmes. Et comme je dis tantôt, l'important, c'était aussi d'être capable d'avoir quelque chose d'accessible.
Oui.
Et il y a 5 ans, on a travaillé avec Atis, qui nous ont créé cette base de données-là.
Okay.
Mais quand on rajoute des onglets, comme par exemple l'onglet sur les ventes de services, ben ça coûte des sous.
C'est la programmation.
C'est justement avec les sous de notre campagne qu'on paye ce genre de choses-là.
OK. Puis il faut peut-être expliquer au public que c'est une base de données comme ça, c'est pas juste pour le plaisir de rentrer des statistiques, mais...
Non.
Parce qu'il n'y a rien de plaisant à rentrer les statistiques, nos données, dans la banque de données. Je le parle, je le dis personnellement. Mais donc, c'est quand même ce qui donne comme preuve à tous nos centraides, etc.
Nos
bailleurs de fonds.
C'est ce qui nous sert à faire notre édition de compte année auprès de nos bailleurs de fonds.
Ce qui est quand même très important.
Oui, c'est très important.
Parce que, comme on disait, la campagne de financement nous sert à être un petit surplus pour justement finaliser certains projets, mais on vit quand même sur des bailleurs de fonds, comme plusieurs organismes communautaires, comme plusieurs OBNL. On a un financement, mais il faut le justifier, ce financement-là.
Exact.
Je pense que...
Alors là, on est rendu à la moitié de notre campagne.
Oui.
On a atteint la moitié de l'objectif.
Ben, c'est merveilleux.
Alors, on est très confiant que d'ici le 18 décembre, on va aller chercher ce qui reste avec la générosité des gens.
On peut dire aussi que l'année dernière, on avait dépassé nos objectifs.
Oui, l'année passée, on a ramassé presque 22 000.
OK. C'est donc, on croise les doigts pour que ce soit le cas encore cette année.
Oui.
Et puis, on invite donc, je peux peut-être, je vais le dire tout de suite, je le répéterai en fin d'émission. Donc, vous pouvez aller sur notre site ram.org à la section « Faire un don ». Est-ce que je me trompe pas?
Non, c'est
ça. Donc, section faire un don, c'est dans la page d'entrée de notre site web, donc le raamm.org. Et puis, vous pouvez aussi rejoindre ma collègue Céline au 514-277-4401 et c'est au poste 111. Et puis, je le répéterai en fin d'émission. Et bien, on peut aussi l'annoncer sur les ondes de Canal M. On a une capsule qui annonce notre campagne de financement qui sera en ondes durant les prochaines semaines à Canal M. Donc, voilà. Pascal, on a un deuxième dossier qui rentre dans le travail, dans les activités, toute l'implication du RAM. Et donc, une offre de service, faut le dire aussi, une offre de service, c'est aussi de l'argent qu'on génère aussi comme organisme. On a cette responsabilité-là aussi. On ne peut pas seulement vivre sur nos bailleurs de fonds. Donc, nos offres de service servent aussi à faire la sensibilisation et tout. Mais bon, on parlait d'une nouvelle formation de 30 heures je te laisse présenter cette formation.
Formation de 30 heures sur l'accessibilité du web. Alors, il faut savoir que l'année dernière, on avait lancé une formation de 45 heures concevoir un site web accessible.
Mm-hmm.
Formation qui s'adressait beaucoup aux concepteurs et webmestres de ce monde.
Plus technique, on va dire aussi.
Oui, beaucoup plus technique pour que les concepteurs sachent comment programmer un site web ou les différents aspects d'un site web, par exemple le calendrier, un lien, une étiquette.
Mm-hmm.
Bon, moi, je suis pas très familière avec l'informatique, là, mais je sais que ça s'appelle comme ça, ces petites choses-là.
Oui, oui, oui.
Et on s'est rendu compte avec nos deux formations que les gens qui sont moins techniques, donc souvent les gens qui sont en communication ou les adjointes administratives ou même les organismes communautaires, parce que les organismes communautaires n'ont pas de grosse équipe en arrière d'elles.
Non, c'est ça.
Ces gens-là veulent savoir comment mettre des choses accessibles sur leur site, mais sont pas nécessairement intéressés et surtout ont pas les connaissances non plus pour concevoir ou programmer un site web.
Mmh, accessible.
Alors, on a ajusté notre formation, on l'a réduite à 30 heures parce qu'on a enlevé toute la partie technique.
Okay.
En espérant que de ce côté-là, on va pouvoir avoir des gens qui sont moins techniques, mais qui ont quand même à faire des mises à jour sur un site web.
C'est ça, puis qui sont des gestionnaires de ces sites web-là, sans être ceux qui les... Il faut dire aussi quand même que, c'est ça, notre formation 35 heures, elle est toujours... existe toujours.
Formation 45 heures existe toujours, oui.
Oui, OK.
Ouais. Puis, alors en janvier, on donne une formation de 30 heures, comme je viens de dire, c'est celle qui est un peu plus allégée. Et en avril, on va donner à nouveau la formation 45 heures, pour les plus qui s'adressent aux concepteurs de sites web.
OK. Et puis, c'est ça, rapidement, là, tu sais, j'ai ici un peu comme on le met dans notre annonce, là, ça s'adresse, formation 30 heures, aux concepteurs d'interface, c'est d'interface utilisateur. On a design UX, UX, design UI, enfin, l'ergonomie, les architectures de l'informatique. On parle aussi des gestionnaires de sites web, mais bon, le profil non technique, comme on disait. On a les gestionnaires de communication et puis les conceptrices, concepteurs généralistes de sites web. Comme tu dis, qu'on va souvent retrouver peut-être plus dans des petites organisations.
Exactement.
C'est ça. Et puis, cette formation 30 heures, là, est-ce qu'on on prend encore des inscriptions?
On prend encore des inscriptions, certainement. On prend des inscriptions jusqu'au 18 décembre, si je ne m'abuse.
OK. Et puis...
chose intéressante à savoir et à dire... On est supporté par la Fondation Saputo pour offrir cette formation-là à moitié prix aux organismes communautaires.
Ça, c'est très important. Et puis, rapidement, donc la formation va être donnée du 15 janvier au 10 mars. Vous avez seulement à aller sur le site du RAM pour avoir toutes les informations. Pascal, je te remercie beaucoup. Et puis, on se reparle. À bientôt.
Merci de m'avoir invité. Bye-bye.
Oui, bye-bye.
Vous écoutez Mission Vision avec Alain Renaud.
Eh bien, j'ai en studio avec moi l'immense plaisir de recevoir Enora Rivière, qui assure l'audiodescription des productions, des spectacles produits présentés par Densité depuis maintenant plus de 3 ans à Montréal. Et puis, c'était vraiment un immense plaisir de t'avoir pour venir parler d'audiodescription, mais sous un autre angle que le début de notre émission où on a parlé d'audio-description plus au niveau des télécommunications, télé et cinéma. Alors, on va maintenant parler d'un autre point de vue, d'un autre angle de l'audio-description avec quelqu'un qui en fait de façon magnifique, et c'est Enora Rivière. Bonjour, Enora.
Bonjour, Alain.
Merci d'avoir accepté de venir à cette avant-dernière émission de Mission Vision. Ça fait longtemps que je voulais t'inviter, puis c'est comme si les occasions ne se sont pas présentées, puis aussi on a l'impression que l'émission va être éternelle, puis je vais avoir le temps. Comme je te disais avant d'entrer en onde, on a parlé beaucoup d'audio-description à Mission Vision. Je m'occupe du comité culture au RAM, et puis donc, c'est un de mes dossiers quand même important, un de mes dossiers chéris. Et puis donc, on a reçu Maud de Densité, et puis on a parlé beaucoup de ces soirées. On a présenté le calendrier culture accessible et de la communauté de pratique et du RAM. Et donc, comme disait Mathieu, mon fidèle metteur en ondes, je pense que les oreilles ont dû te sceller à quelques reprises lorsque on parlait de toi à Mission Vision. Fait que ben aujourd'hui, les oreilles vont pas te sceller, là. Les questions seront directement adressées à toi. Fait que ben c'est ça, comme je disais, j'en ai parlé déjà beaucoup là, des soirées à Densité, puis ben, soirée ou après-midi. Fait que j'aimerais, c'est ça, que tu nous racontes un peu toute cette aventure-là. Là. On peut partir de ton arrivée au Québec, on peut partir de la dernière... ou de la dernière... Bon, je parle beaucoup, je vais me taire, là, mais ou de la dernière production.
Non, il faut
production.
Que tu cadres, parce que là, on est mal parti.
Ouais, OK. Donc, ben, comment commencer cette aventure, là, peut-être rapidement, là?
OK. Ben écoute, cette aventure, elle a commencé d'abord de façon interne à Densité, hein, entre Maud et Sophie qui ont décidé il y a quelques années de monter ce pôle d'audiodescription. Et quand les choses ont commencé vraiment à se mettre en place, là on parle de avant ou pendant la pandémie, c'est pour ça que ça a été un peu retardé hein, aussi à cause de ça,
ça
a été un peu repoussé. Et puis voilà, Sophie un jour est venue me voir à la maison,
Sophie
Corriveau, pardon, la directrice générale et artistique de Densité,
okay.
qui est venue me voir pour me proposer de faire partie de ce projet avec elle, et puis voilà, d'occuper un poste clé aussi dans ce pôle d'audiodescription, okay. en tant qu'audiodescriptrice.
Uh-huh.
Et puis c'est le moment où... ben, moi déjà, j'étais à la fois étonnée qu'elle pense à moi parce que j'ai trouvé ça surprenant qu'elle vienne me chercher directement. Ça avait l'air d'être évident pour elle. Il s'avère qu'en France, j'avais voulu me former à l'audiodescription, mais je n'avais pas eu l'occasion de le faire en danse.
Uh-huh.
Mais j'en avais parlé à personne ici.
C'est ça, donc elle était tout
donc,
à fait...
Donc, elle a lu et vu quelque chose chez moi. Et puis, moi, j'ai une pratique, je suis danseuse au départ, okay. Chorégraphe, chercheuse aussi, écrivaine. J'écris beaucoup sur la danse, en fait. Je suis aussi critique.
Ben, c'est vrai, j'avais ça.
C'est ça. Pardon, je...
As-tu lu ma feuille?
Non, j'ai pas lu ta feuille, mais je voulais pas spoiler tes notes.
Non, mais non, au contraire, j'étais en train d'oublier de le présenter. Mais bon, moi, je trouvais ça assez rigolo parce que... Bon, je défile, hein. C'est écrit en gros parce que, tu sais, je vois pas bien, alors je me dis, oh, peut-être qu'elle avait déjà...
Non, j'ai pas lu tes notes.
C'est bon, parce que Mathieu, mon technicien au bord de la vitrine, lui, il lit mes notes. Alors, c'est ça, ben, c'est trop rigolo. Donc, danseuse, hein, quand même, chercheuse, chorégraphe, écrivaine. Qu'est-ce que j'ai d'autre aussi? Ben, dramaturge, critique. Et puis, ben voilà, maintenant, comme tu dis, presque par hasard ou par un destin audiodescriptrice, est-ce qu'on dit? Oui, audiodescriptrice.
Audiodescriptrice, oui.
C'est dur,
audiodescriptrice en danse. Oui, oui, c'est un gros mot. Hein.
Ouais.
D'ailleurs, les gens se trompent tout le temps. C'est toujours... auto ou audio ou c'est un autre mot souvent, cinéma quelque chose, en tout cas il y a toujours beaucoup de confusion avec ce mot, mais c'est à la fois simple et compliqué à dire,
donc,
mais bref,
mais donc,
écoute,
tout ça, tout ce qu'on vient de nommer dans le fond,
c'est ça m'a amené à, dans le fond, ça, parce que aussi l'audiodescription en danse, ça nécessite aussi un certain nombre de compétences différentes, c'est quand même un métier qui est très complet.
Oui.
Du début à la fin, hein, de tout le processus d'écriture jusqu'à l'oralisation, jusqu'à la performance orale en direct.
Mm-hmm.
Et dans le fond, tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, j'ai presque envie de dire que le chemin était tout tracé pour que sur mon chemin, je croise à un moment donné l'audiodescription.
Ça
s'est fait ici à Montréal avec Densité.
On peut dire par hasard, là, pas hasard, mais... Le fait que Sophie soit venue vers toi, comme tu dis, c'était, c'était plus comme un cadeau.
C'est ça, exactement.
Cadeau du ciel.
Ouais.
Et puis, on est avant la pandémie, si je me souviens bien, hein, c'est ça. Donc, il y avait ce projet qui se mettait en marche, mais qui a été stoppé par le confinement,
qui a été un peu retardé, et puis, qui a été repoussé. Et puis, parce que l'idée au départ, c'était quand même de Bah, de faire venir quelqu'un de la France qui s'appelle Valérie Castan, qui elle est audiodescriptrice en danse depuis une dizaine d'années. Et puis Densité lui a proposé, bah, on a commencé de fait par Zoom, hein, à distance, parce qu'on était encore pendant la pandémie. Mais Densité a lancé un appel à candidature pour les gens qui seraient intéressés à s'outiller avec l'audiodescription. Donc c'est ça, Valérie nous a transmis un peu, nous a transmis ses outils, et c'est comme ça, c'est à l'issue de ces deux stages de formation avec elle qu'a eu lieu la première audiodescription à quatre voix en octobre 2021 à Place des Arts.
À quatre voix ?
Oui, on était quatre voix à l'époque.
Ok, ouais. C'est-à-dire
quatre personnes, on avait divisé la pièce en quatre.
Ok.
Et puis chaque personne prenait entre 15 et 20 minutes, et puis les voix se succédaient les unes après les autres.
Ok, mais c'était un spectacle de danse, on s'entend.
Bien sûr, ouais, c'était
un spectacle
de danse.
Est-ce que c'était comme quatre parties ou pas du tout? C'est vraiment
C'est bien tombé avec cette pièce-là parce qu'il y avait quand même des tableaux assez distincts, donc on a divisé la pièce de façon assez logique pour pas que ce soit étrange, le passage d'une voix à l'autre, ça reste cohérent avec la pièce quand même. Mais c'est bien tombé avec cette pièce-là, en tout cas.
Parce que je faisais référence à le spectacle qui avait été présenté. Il y avait trois tableaux, soit les grands ballets, c'était les ballets de jazz.
C'était les ballets de jazz, mais c'était trois pièces différentes.
C'est ça. Donc, puis, je pense que vous aviez été, si je ne me trompe pas, vous aviez été trois.
On était deux. Moi, j'avais deux pièces. Okay. Et puis, Caroline Charbonneau avait fait une autre pièce.
OK, parfait, c'est ça. Donc, ce n'était pas tout à fait la même... Mais c'était aussi la première, c'était une première, donc à quatre voix. Puis, avant que j'oublie, est-ce que tu avais déjà assisté à de l'audiodescription en France de la danse ou tu en avais
Non,
Non,
j'en avais. Ben, je connaissais déjà cette Valérie Castan parce qu'elle est aussi du milieu de la danse en France, donc je l'avais rencontrée, on avait commencé à travailler un peu ensemble, mais j'avais laissé tomber l'idée de me former parce que il y avait plus de place à ce moment-là.
En audio description,
oui, okay, mais à l'époque, je voulais essayer de me former. Bah, les formations qui existent sont exclusivement pour le cinéma.
C'est ça qu'on.
Donc pour l'image, vraiment cinéma et télévisuel.
Okay.
Et je savais que cette femme-là avait fait cette formation-là et qu'ensuite on adapte les outils pour la danse. En fait, il n'y a pas de formation spécifique en danse.
Okay.
Donc, mais je n'ai pas fait cette formation en France parce qu'il n'y avait plus de place. Et puis je l'ai rencontrée, elle, on a beaucoup parlé, on a commencé un peu à travailler ensemble, mais la vie m'a menée ailleurs, donc j'étais vraiment beaucoup plus sur scène à ce moment-là, donc j'ai laissé tomber sur le moment, et puis après j'ai immigré ici, et puis après tu connais la suite.
Ouais, mais peut-être que avec ce que tu me racontes, je me dis peut-être que Sophie a eu des...
Mais non, elle savait même pas que je connaissais Valérie.
Ah, ok.
Non, non, c'est tout ça, c'est vraiment il fallait que ça se passe à un moment donné, c'est ça.
Super.
Voilà.
Et puis, donc, à partir de ce premier spectacle en octobre 2021, donc, il y a eu maintenant, je ne sais pas, on est en moyenne 3-4 spectacles par année qu'il y a eu depuis. On serait rendu quoi, 12?
Oui, il y a eu des saisons, il y en a eu 5.
Ah ouais, c'est vrai.
Ouais. Okay, donc, je sais pas, mais j'ai fait une bonne dizaine. J'en ai fait une bonne dizaine.
Fait que t'es un peu quand même une pionnière, là, au Québec.
Ouais, tu peux dire ça.
Tu peux dire ça, puis t'as élaboré, t'as monté tout ce... Tout ce projet-là,
j'ai développé la pratique, ouais, vraiment. Ouais. J'ai fini par me former. Enfin, de toute façon, c'est ce que je te disais un peu quand on s'en est déjà un peu parlé. C'est vraiment pas une. C'est une pratique qui est tout le temps.
Évolutive.
Il n'y a rien de fixé. Il n'y a pas de recette. Il y a quelques, on va dire, réflexes à avoir et puis à activer, à mettre en place pour, dans la manière d'écrire, en fait, dans la méthodologie de l'écriture. Mais après, tout est rejoué en fonction de la pièce chorégraphique qu'on doit décrire. Hein, donc,
Ben, c'est ça. Puis disons-le quand même spécifiquement pour la danse, l'audiodescription de la danse.
Ouais.
Où tu fais face à différents types de spectacles, tu fais face à différentes situations avec un spectacle qui existe déjà, un spectacle qui est en train de se créer.
Exact.
Il y a toutes ces... contrairement peut-être, si je fais une comparaison rapide avec l'audiodescription au théâtre, où la pièce souvent existe déjà, où tu sais, il n'y a pas... Je trouve qu'il y a quand même un côté très intervention plus artistique dans ce que tu fais.
Mm-hmm.
Si je peux me permettre de
l'amener comme ça. Écoute, je suis ravie de l'entendre.
Ouais.
Mais c'est sûr qu'on a des contraintes en danse déjà dans la mesure où les pièces sont beaucoup moins diffusées qu'en théâtre. Tu sais, en théâtre, les pièces, elles restent trois semaines à l'affiche.
Ouais.
En danse, ça reste trois jours, quatre jours maximum.
Alors,
donc, quand c'est une pièce qui est créée, qui est pas encore créée justement, je dois assister aux répétitions et tout ça.
Pièces de danse.
Aux pièces de danse, bien sûr. Ouais. Moi, je travaille actuellement que sur des pièces de danse.
C'est ça. Non, je voulais dire parce que je voulais pas qu'il y ait de confusion avec les auditeurs à savoir que.
Ah oui, quand on dit
une
pièce.
Une pièce en création, mais même si la pièce est en création, le texte va avoir été écrit. À moins qu'on parle d'improvisation, mais en général, une pièce, même si c'est une nouvelle création, elle est écrite, le texte existe déjà, parce que, bon, c'est les acteurs doivent l'avoir appris, donc le duo descriptrice, descripteur, a déjà ça,
il
sait où s'en va. Alors que toi, une pièce, donc un spectacle de danse, pour être mieux, pour ne pas mélanger les gens, qui est en train d'être créé, là, c'est là qu'il y a une difficulté, en tout cas un défi, parlons de défi.
Tout à fait. C'est un gros défi parce que ça veut dire aller suivre le travail en répétition au fur et à mesure, parler avec l'équipe artistique. Et puis, comme on le sait très bien, une pièce se termine le jour même de la première, voire après. Ça veut dire que nous, en termes d'écriture, on adapte le texte jusqu'au dernier moment, en fait. Il y a un gros, gros travail de finalisation qui se fait vraiment dans les derniers jours. C'est là où il y a toujours un gros rush de travail. Ouais.
Et puis, comme au théâtre à Montréal, on s'entend qu'il s'agit d'une seule représentation en plus en audio description.
Ouais. Oui, c'est ça.
C'est fou.
Ouais, donc j'ai pas le droit à l'erreur.
non, effectivement. Mais bon, on n'est pas.
Non, mais je...
Oui, non.
Je vais pas me flageller,
c'est ça. Et puis, c'est ça. Je pense pas qu'on peut parler d'erreur en audio description dans ton cas.
Non,
je veux dire dans le sens où... j'allais dire en audio description, il peut avoir une mauvaise audio description. Il peut avoir une audio description plus straight ou plus... moins vivante, mais c'est ça. En danse, t'as pas le choix d'être... faut être créatif, faut être... faut décrire des gestes à des gens qui voient pas.
Ouais.
Il faut décrire des mouvements. Comment dire? Écoute, on peut prendre une petite gorgée d'eau, une petite pause.
Ouais.
Et puis, peut-être revenir... en décrivant peut-être une soirée type, peut-être soit avec le dernier spectacle auquel... j'ai assisté, ou le prochain qui est en préparation, peut-être que expliquer aux téléspectateurs, justement, c'est quoi toute cette charge?
Un exemple,
toute charge de travail, tout le travail en amont, puis en aval, et puis jusqu'à la représentation live, le soir de la représentation.
Il la soulève et la fait voler vers le centre. Petit à petit, toute la scène est baignée de rouge. Les deux tout contre, entremêlés, au centre, petit à petit se détachent. Fond centre, Alissa arrive vers le couple. Miu sort à gauche, Marcel sort à droite. La scène bascule dans un large halo verdâtre. Au centre, Alissa, jambes ouvertes pliées, petite tête d'oiseau qui cherche le ciel, bras sur les comptés, ondule comme un envol au ralenti. D'un coup, revient face à l'affût. Tension... propulsion, saccade dans les bras, lance jambes pliées arrière, tourne, lèche la main, brandit le poing, pivote, brandit poing serré, relâche, se ramollit.
Eh bien, c'est une petite surprise que nous a fait Mathieu, notre metteur en onde.
Eh bien, voilà, merci Mathieu.
C'était une super pause. On n'a pas eu le temps de prendre une gorgée d'eau parce qu'on était la bouche, on était béat devant ce qu'on entendait. C'était magnifique. Puis, en plus d'être une belle surprise, c'était un extrait du spectacle Essence, donc dont on parlait.
Des
ballets jazz de Montréal.
Ouais.
Alors, je trouve que c'est un bel exemple. On entend un peu la musique, on entend la musique de fond.
Ouais.
Et c'est un exemple du travail de Enora Rivière quand elle décrit à ses soirées de densité des spectacles de danse en audio description.
Mm-hmm.
Et puis, juste avant cette belle petite surprise, c'est ça comment. Je ne sais pas si on veut parler de ce spectacle-là en particulier, mais c'est ça, peut-être nous expliquer un peu le parcours là, que prend là, cette, pour en arriver à une soirée avec la description.
Mm-hmm. Ben écoute, c'est quand même un long processus d'écriture qui prend quelques semaines. La dernière pièce, celle à laquelle tu as assisté, par exemple, Manu Rock, un solo qui s'appelait Le vent se lève, qui n'a rien à voir avec l'extrait qu'on vient d'entendre, parce que là, c'était les Ballets Jazz Montréal et il y avait beaucoup de monde sur scène.
Ouais.
Donc ça a été un gros défi parce qu'il y avait beaucoup de mouvements, beaucoup, beaucoup, beaucoup de mouvements.
Mm-hmm.
Manu Rock, c'est un solo, donc déjà, ça veut dire forcément une seule personne sur scène,
c'est ça.
Qui est en plus sur des motifs très, très répétitifs. Donc, sur le coup, je me suis dit, ça va être presque des vacances avec ce travail. Ça va être un peu reposant, mais alors pas du tout, en fait, pas du tout. Parce qu'il a fallu trouver des stratégies pour justement nourrir la répétition en direct.
La répétition, dans le sens de dans son spectacle, il y avait énormément de répétitions.
Exact.
C'est ça.
Dans son spectacle, il répète le même motif
plusieurs fois.
Des dizaines et des dizaines de fois. Là, c'est vraiment.
Il y avait un côté, est-ce qu'on peut parler de mécanique, là, un peu.
Ben, il y avait quelque chose à la fois de mécanique, mais quelque chose de l'ordre de la transe aussi, parce qu'il y avait des choses.
Puis d'entraînement aussi, peut-être.
D'entraînement physique.
Ouais,
ouais,
c'était
tout
comme,
à fait.
C'est ça. Ouais. Quand je parlais de mécanique, là, c'est un peu comme le nageur ou le lutteur ou l'athlète qui répète toujours le même geste pour.
Ouais, ouais. Il y avait une certaine endurance, virtuosité. Virtuosité dans des choses simples, dans le sens où il n'était pas en train de faire des grands écarts sautés. Mais c'est une autre technicalité vraiment qui est très, très forte.
Proche du gym, dans le fond, c'est ça que je voulais en venir. Il y avait un côté entraînement.
Tout à fait.
Juste pour résumer rapidement aux gens, il est seul sur une grande scène avec aucun décor.
Ouais.
Et puis,
il fait beaucoup d'allers-retours.
C'est ça.
Dans l'avant, en arrière, de droite à gauche.
Puis, écoute, il y avait un côté répétitif. Mais donc, toi, ton défi, c'était quand même de venir agrémenter comment ne pas répéter tout le temps le même pas qu'il faisait.
Exact. Répéter sans répéter, c'est exactement la même chose. Et être très attentive aux moindres variations, parce que tout le travail de Manu Rock, c'est ça aussi. C'est-à-dire que lui, ce qui l'intéresse dans la répétition, c'est ce que ça va générer comme subtile variation de mouvement. Mm-hmm. Donc là, ça veut dire être très... vraiment, ça veut dire, en fait, quand tu me demandais le processus de travail, Manu, il était en création. Donc, je suis allée le voir plusieurs fois en studio. Lui, il filmait les répétitions et il m'envoyait les vidéos. Donc, je travaille toujours sur vidéo, de toute façon, pour préparer le travail. Mais je demande à avoir des vidéos réactualisées en fonction de l'évolution du travail. Et donc, je regarde des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois l'image et je décris seconde par seconde, en fait.
Mais souvent, des vidéos, ça va être seulement une partie. Ou c'est toujours... mettons, c'est une répétition...
Là, écoute, avec lui, ce qui tombait bien, c'est qu'il avait déjà une structure qui était déjà très, très écrite.
Okay.
Et quand je venais le voir en studio, il faisait le show au complet à chaque fois. Parce que lui, il travaillait sur l'endurance de son show, puis ensuite, il travaillait sur des détails, mais la pièce était là.
OK.
Donc, à chaque fois que j'allais le voir, je repartais avec une vidéo,
complète.
Absolument, complète.
Ma question, c'était, est-ce que des fois, tu reçois juste des petits bouts, si la pièce est en création, puis des fois, ils ont filmé...
Toutes les situations sont différentes. Celle d'avant, Soleil Launière à l'Agora de la Danse, la performance est écrite en 2 semaines. Donc moi, pendant les 2 semaines, j'assistais aux répétitions et j'écrivais mon texte en direct parce que ça changeait tous les jours, tu vois. Et il n'y avait jamais de vidéo, parce que ça ne servait à rien que je travaille sur vidéo, parce que je savais que le lendemain, ça ne servait à rien de filmer, parce que le lendemain, ça allait être différent. Il valait mieux que je sois présente et que j'écrive en direct. Manu, je pouvais écrire à la maison à partir d'une vidéo, donc c'était encore un autre type de travail.
C'est juste pour noter un peu toute la créativité dans laquelle que tu as utilisé pour décrire ce spectacle où Manu répétait, mais c'était pas chassé. Tu trouvais une façon de nommer la répétition avec beaucoup d'imagination, avec beaucoup de...
J'essaye toujours de travailler sur plusieurs registres d'écriture, parce qu'il y a plusieurs manières de décrire le mouvement. Il y a une manière vraiment très factuelle, donc je décris l'action qui est en train de se faire. Donc si c'est un pas chassé, c'est un pas chassé. Si c'est un tour, c'est un tour.
Ouais.
Mais après ça, il y a aussi toujours une manière... J'essaye toujours de de percevoir quelles images jaillissent en fait de l'action. Donc là, je vais chercher plus des métaphores en fait. Puis c'est là où je convoque une certaine sensorialité. Je vais aller chercher aussi des sensations. Je vais aller chercher des images et des sensations.
C'est ça.
Et puis ensuite, Manu, il a un travail aussi très rythmique dans la répétition, très musicale. Donc je vais à la fois me poser la question de quelle image produit la danse, mais quel son aussi produit la danse. Okay. Quels sont au-delà de l'environnement sonore.
Okay,
donc c'est pour ça que je travaille aussi beaucoup avec des onomatopées, surtout quand c'est des choses qui se répètent.
Okay.
Au bout d'un moment, je vais répéter le son du mouvement. Donc si c'est
même si le son, même si le mouvement est silencieux là.
Oui, alors on entendait, Manu, on entendait quand même le jeu de pas au sol.
Oui, parce que c'était assez... Ouais. C'était bâti. Là,
Mais ça me permettait aussi... tu l'as entendu, hein, à un moment donné, j'arrêtais de mettre les mots, puis je disais tata, tata, tata. Et on garde, on sait ce qui est en train de se passer. Et on n'est plus que dans la rythmique.
Ouais.
Donc, je ne suis plus en train de saturer la personne qui m'écoute non plus avec des mots. Je suis juste en train de l'accompagner avec le son de la danse. En fait.
Ouais,
et ça laisse de l'espace pour la personne qui écoute aussi. Pour...
Et puis, il faut le dire, contrairement à l'audiodescription au théâtre ou au cinéma, où l'audiodescriptrice va seulement dire la personne rentre dans la pièce et s'assoit sur le divan.
Mm-hmm.
Mais toi, tu as un spectacle de danse, donc du mouvement, avec aucun texte, aucune parole, souvent un peu de musique, toujours en général accompagné de musique. Alors, il n'y a pas beaucoup de moments de silence là, pour l'audiodescriptrice. Là. Tu dois être toujours en train de... Tu ne peux pas laisser le public dans le noir à imaginer. Il faut que... C'est ça. Puis, défi, si on revient à Manuel Rock, il y avait des moments donnés d'immobilité. Des longs moments d'immobilité. Où c'est ça, il soit au milieu de la chorégraphie, il se couche.
Ouais.
Parce que je pense que tout le monde dans la salle sait qu'il doit être vraiment épuisé parce que sa performance physique, elle est quand même assez impressionnante. Et on comprend les moments de alors, mais là, toi, tu peux pas... Il faut trouver, là. Il faut trouver une façon de décrire la situation.
Le vide.
Le vide.
L'immobilité.
C'est ça, il y avait aussi il y avait quand même un côté visuel qui était encore présent, des changements de lumière. Mm-hmm. Alors, tu pouvais donc décrire au public non-voyant, malvoyant, ces aspects-là de ce qui se passait ou de ce qui se passait pas sur la scène. Fait que c'était quand même un sacré défi. Là.
Absolument. Puis c'était un moment d'immobilité aussi que prenait Manu. Mais moi, j'ai beaucoup moins parlé que quand il était en action, évidemment, parce qu'il y avait beaucoup moins de choses à dire. Mais je suis allée décrire un certain nombre de choses. Mais à ce moment-là, Manu prend une pause. Le spectateur et la spectatrice prennent une pause aussi.
Ouais.
Donc, je dois aussi laisser de l'espace pour que les personnes qui écoutent accueillent ce moment de calme aussi. C'est toujours trouver le bon dosage entre donner suffisamment d'informations, mais ne pas saturer la perception. Quoi.
Et puis, c'est drôle parce que ça m'a quand même rappelé un autre spectacle qu'on a vu plus tôt cette année. C'était à l'usine C. Est-ce que c'était à l'usine C où les danseurs étaient sur la plateforme ronde?
Tout à fait. Weathering, de Phaedrus Cole. Ouais.
Écoute, le spectacle a commencé, ils sont restés immobiles, toute la troupe, tous les danseurs pendant...
20 minutes. Mais ils n'étaient pas du tout immobiles, c'était du micro-mouvement.
Moi, je le percevais pas trop.
C'était du lent continu.
Mais c'était quand même... c'est un exercice, on vient chercher, on vient demander beaucoup aux spectateurs. Là, C'était 20 minutes, tu dis?
Oui, je pense que c'était les premières 20 minutes, puis après, après les actions étaient plus conséquentes. Ouais, mais en tout cas, oui, c'était une plateforme tournante, ils étaient 10 personnes.
Et puis ça a terminé ça dans un tourbillon hallucinant, c'était magnifique, ça, c'était d'une folie, ça avait été tellement lent et long dès le début, et c'est fini dans une espèce d'apocalypse de mouvement complètement fou.
Tout à fait.
Où on sort de là plein sans voix. Je sais pas,
et moi aussi.
J'imagine, c'est vrai. C'est ça. C'est ça, quand j'ai vu le début du spectacle de Manu qui a commencé complètement immobile, j'ai eu un peu peur. J'ai dit, oh mon Dieu, j'espère que ce ne sera pas 20 minutes comme ça, comme cet autre spectacle.
Ouais.
C'est ça.
Ouais.
Mais bon, voilà. J'ai quand même, je disais, les gens qui ont pu écouter quelques épisodes de Mission Vision, on a quand même parlé beaucoup des soirées magnifiques de densité. Peut-être juste faire un petit résumé de comment ça se passe ces soirées-là.
Oui, tout à fait.
Parce qu'il y a toi, l'audio-descriptrice, pendant la représentation, mais il y a toi avant.
Ouais.
Et ben, pas seulement toi, il y a les danseurs, les chorégraphes, etc., mais il y a toi qui viens présenter au public, qui ont accès à la salle là, mm-hmm. avant le spectacle. Mm-hmm. Et il nous reste 2 minutes, mais okay. Nora, c'est fou.
Alors
mais...
écoute, alors je vais essayer d'être concise, comme ouais. dans l'audio description. Une soirée densité, bon, c'est toute l'équipe densité qui accueille les personnes aveugles, évidemment, en arrivant. Et puis on fait ce qu'on appelle avant un atelier de présentation ou une visite tactile, dépendamment des choses qu'il y aura à, mm-hmm. à toucher. Et donc, c'est vraiment un atelier d'introduction qui nous permet d'être dans l'espace du théâtre et de la scène, de toucher les costumes, les décors, de faire une brève présentation, éventuellement de faire quelques mouvements aussi pour préparer les mots que je vais utiliser ensuite. Ensuite, il y a l'audio description en direct. Et ensuite, il y a la rencontre avec le public. Donc, c'est le moment où l'équipe artistique et moi-même rencontrons les personnes qui nous ont écoutés, et c'est le moment d'avoir un retour. Et de plus en plus, on l'a fait, on essaye de faire ça tout public confondu pour okay. que justement il y ait une rencontre de tout le monde, et que tout le monde réalise qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là et okay. qu'ils entendent aussi les récits hein, des personnes.
On va...
Je
savais qu'on n'aurait pas
mais
assez de temps.
On a tout dit quasiment.
On va inviter, on va inviter quand même les gens le 7 décembre
ouais.
à la Maison Théâtre.
Ouais.
Donc un spectacle pour spectacle jeunesse avec audio description, ouais. ça va être quelqu'un d'autre. Il me reste 30 secondes. Alors je regrette de ne pas t'avoir invité avant. Je l'avoue, en direct, en ondes. Et puis, que ce ne sera que partie remise, j'espère. Merci à mes 3 invités, donc, pour cette avant-dernière émission de Mission Vision. Antoine Perrault, du RAC, Pascal Dussault, du RAM et Nora Rivière, de Densité. Donc, à bientôt pour une dernière, la semaine prochaine, dans 2 semaines, à Mission Vision. Merci beaucoup, Nora.
Merci à toi, Alain.